Ésaïe, chapitre 52, verset 11. Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre observation du sabbat. J'ai à cœur de vous présenter aujourd'hui un sujet qui sera réparti en deux parties et que j'ai intitulé « Deux appels distincts mais liés ». Deux appels distincts mais liés. Voilà, donc la raison de ce message, et ce message a pour but de corriger certains amalgames, de clarifier certains points de doctrine et également de jeter la lumière sur un lien étroit qui existe entre les deux appels solennels lancés par Dieu à son peuple en ces derniers jours vis-à-vis de leurs affiliations religieuses. Et c'est ce que nous allons examiner attentivement ensemble aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers cette étude en deux parties. Nous allons examiner attentivement les deux appels solennels adressés par Dieu à son peuple en ces derniers jours vis-à-vis de leurs affiliations religieuses, à savoir leurs appartenances religieuses. Le premier appel que nous voulons examiner, rappelez-vous, il y en a deux. Et nous voulons voir à la fois ce qui les distingue et le lien étroit qui les unit. Remarquez, le premier appel solennel que Dieu lance à son peuple en ces derniers jours, c'est celui d'Apocalypse chapitre 1 à 4, mais surtout le verset 4. Simplement, nous avons besoin de lire les quatre versets pour avoir la totalité du message qui ressort dans le verset 4. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 1, nous lisons « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. » C'est-à-dire, après les trois anges d'Apocalypse chapitre 14, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, ce qui fait donc le quatrième, qui avait un grand pouvoir. » La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis, verset 14, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, deux points, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Qu'est-ce que c'est? Quel est l'appel solennel lancé par Dieu à son peuple en ces derniers jours? Notez bien, le langage que j'emploie, je l'ai choisi avec soin pour tout à fait coller et adhérer et rester fidèle aux déclarations bibliques. Donc c'est un langage, c'est un appel lancé par Dieu à son peuple en ces derniers jours, hein, parce que c'est dans le contexte de l'époque qui est couverte par les trois anges et qui vient se conclure par ce grand cri du troisième ange. Hein, c'est ce que nous comprenons en tant qu'adventiste du septième jour comme étant la description de ce message allant du verset 1 au verset 3. C'est l'esprit de, pour ce que l'esprit de prophétie appelle le grand cri du troisième ange. Et donc, il vient précisément dans cette même période qui est concernée par le troisième ange. Vous comprenez? Simplement, vu que c'est le grand cri, il concerne la finalité de cette période. Et vis-à-vis de cette fin de cette période, il vient à nous cette autre voix du ciel, verset 4, qui lance cet appel. Et cet appel vient de Dieu parce que le langage qui est employé dans cet appel est celui-ci, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qui dit cela? Dieu. Dieu appelle son peuple dans Babylone à sortir. Afin qu'il ne participe pas à ses péchés et n'ait pas point part à ses plaies. Et donc, frères et sœurs, dans le contexte de ce message que nous voulons contempler aujourd'hui, de cette étude que nous voulons avoir, les questions qui se posent à nous sont les suivantes. Et j'aimerais vous les poser pour que nous y réfléchissions ensemble et que, en y réfléchissant ensemble, nous y trouvions ensemble des réponses fondées sur la parole de Dieu, ainsi que sur les témoignages, comme nous allons le voir par la suite. La question première qui se présente à nous, c'est celle-ci. Quelle est l'application de ce passage? À savoir, de ce passage du verset 4. À qui s'applique ce passage? Comment le comprenons-nous? Et troisièmement, tout cela fait partie de la même question. Qui est inclus dans Babylone? Qui est inclus dans Babylone? Nous voulons chercher intelligemment à obtenir la réponse inspirée à cette interrogation. Pour commencer à obtenir et trouver cette réponse, je vous invite à vous tourner avec moi vers le passage de l'esprit de prophétie du livre La tragédie des siècles à la page 413 et au paragraphe numéro 1. Suivez avec moi ici comment le témoignage de Jésus a mis en lumière l'identité de Babylone. Hein? Nous avons déjà traversé de nombreuses études, j'en ai fait 4. Oui, 4. J'ai fait 4 études sur l'importance, sur la valeur, le bien fondé, l'importance de l'esprit de prophétie pour nous en ces derniers jours. Donc, j'espère que vous avez vraiment assimilé ces choses-là pour pouvoir recevoir les informations que nous sommes maintenant en train sur le point de lire comme venant tout droit de la bouche de Jésus-Christ. Je lis. Tragédie des siècles, à la page 413 et premier paragraphe. Excusez-moi. Où il est écrit. Hein, c'est donc en vue de pouvoir répondre à la question de savoir qui est inclus dans Babylone et quelle est l'application de ce passage. Et pour pouvoir comprendre cela, nous voulons savoir qui est Babylone. Parce que si nous savons qui est Babylone et comment Babylone, qui est inclus dans Babylone, eh bien alors, pardon, si nous arrivons à savoir qui est Babylone, eh bien nous savons qui est inclus dans Babylone et qui est concerné par cet appel solennel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Je lis. Babylone est appelée la mère des prostituées. Ses filles représentent évidemment les églises qui s'attache à ses doctrines et à ses traditions, et qui, comme elle, sacrifie la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message d'Apocalypse chapitre 14 annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Ce sont, elle répond, ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises protestantes, c'est-à-dire, ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, elle cite, « Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à la magnificence dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël, le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Elle cite encore, « Tu t'es confié en ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. » Qu'est-ce que nous avons vu? Vous remarquez que le message d'Apocalypse chapitre 14, annonçant la chute de Babylone, concerne qui? Concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues, comme c'était le cas de l'Église de Rome. L'Église de Rome était autrefois, et il y a longtemps, pure du temps de l'apôtre Paul, qui s'adressait d'ailleurs à eux dans l'Épître aux Romains. Donc l'Église de Rome était autrefois pure, mais se corrompue, se prostitua et devint finalement Babylone et se transforma graduellement et puis ensuite officiellement en l'Église catholique romaine. Et donc ensuite il est écrit que cette chute de Babylone annoncée dans Apocalypse chapitre 14 verset 8, hein, ce message du deuxième ange, concerne qui? Des organisations religieuses qui autrefois pures se sont corrompues. Et étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique qui, elle, était tombée déjà depuis des siècles. Vous voyez donc, à la période qui est concernée par le message des trois anges, premier, deuxième et troisième, le message qui annonce la chute de Babylone ne peut concerner l'Église catholique parce qu'il vient précisément pendant cette septième période de l'Église, hein, la Odyssée. La période de la Odyssée, c'est celle qui est comprise, ainsi que Philadelphie, par ce message du premier et du second ange, n'est-ce pas, qui ont eu lieu après 1798. Et donc, l'Église catholique romaine, elle, est tombée depuis bien plus de siècles que cela. Donc ce message d'Apocalypse chapitre 14 verset 8, le message du deuxième ange annonçant la chute de Babylone, ne peut s'appliquer à elle et doit donc s'appliquer à d'autres églises, elles aussi tombées, elles aussi corrompues. Ces églises, disait l'esprit de prophétie, la question était posée, quel corps religieux recèle actuellement, disait-elle en son temps, ce qui est également applicable, aujourd'hui, la plus forte proportion des disciples de Jésus? Qu'est-ce que c'est? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Et je continue, nous allons enchaîner par la citation suivante qui se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 655, paragraphe 2, et le paragraphe suivant. Ce passage, donc d'Apocalypse chapitre 18, nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la proclamation du message dans le courant de l'été 1844. C'est-à-dire que l'Esprit de prophétie nous dit que ce message, ce passage d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4, signale un temps où cette proclamation de la chute de Babylone que nous avions déjà dans le message du deuxième ange sera réitérée, mais cette fois avec les mentions additionnelles de la corruption accrue qui s'est frayée, qui est entrée, qui s'est introduite dans ces églises professant la foi protestante, comme nous l'avions vu dans le passage suivant. Précédent. Nous avons ici, je continue, nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. Ici où? Dans ce passage d'Apocalypse chapitre 18. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, ils s'obstineront à transgresser l'un des commandements du décalogue et ils finiront par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ en accueillant les enseignements spirites. En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux. Il en résultera que la profession de christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance au phénomène spirite ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Et donc, toutes ces églises-là dont il est question ici sont les églises de confession protestante et qui étaient déjà concernées par le message du deuxième ange et qui se voient a fortiori concernées par le message de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18. Et encore plus, à plus forte raison, par cet appel solennel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Donc nous venons de voir ici, frères et sœurs, que l'appel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, qui est la répétition lui-même du message du deuxième ange, avec la mention ajoutée des corruptions qui caractérisent les corps qui constituent Babylone, ce message-là concerne non seulement Babylone, la mère, hein, donc qui est la mère, l'Église catholique romaine. Ce message concerne non seulement elle, la mère, mais aussi et surtout ses filles, car Babylone est déclarée être la mère des prostituées. Vous le voyez ici dans Apocalypse chapitre 17, verset 5. Au sujet de cette femme qui était assise sur une bête, hein, l'Église catholique a toujours été une combinaison et une union de l'Église et de l'État. L'Église, c'était cette Église de Rome, et l'État, c'était l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est le Vatican. Hein. C'est une Église qui est assise sur une bête. La bête, aujourd'hui, semble petite. Avant, elle était beaucoup plus grande. C'était un empire, l'Empire romain. L'Église était assise sur cet empire. Et au sujet de cette femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, etc., qui était assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, etc., au verset 5, nous lisons que sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre, ou comme c'est écrit en anglais, The mother of harlots, which means, ce qui veut dire, pardon, la mère des prostituées. Pas des fornicateurs, c'est des prostituées. Et le mot prostituée est très indicateur et très rempli de sens, dans le sens que du temps du peuple d'Israël par le passé, le peuple d'Israël était comparé à une femme qui s'est prostituée, à une femme infidèle. Et ça, ça montre que la Babylone la Grande, cette église catholique, hein, qui est très bien décrite ici, du verset 1 au verset 6, celle qui était enivrée du sang des saints, ce qui ne peut être vrai et qui ne sera jamais vrai pour aucune autre église, si ce n'est pour l'église catholique romaine, cette église-là est la mère des prostituées. C'est-à-dire, elle est la mère, elle est l'originatrice des autres églises qui, elles aussi, se prostituent au monde et aux pratiques spirites, etc. Elle est leur mère. Donc nous avons vu que cet appel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, précisément verset 4, hein, hein, parce que le verset 1 à 3, il annonce, mais il ne dit rien. C'est le verset 4, cette autre voix du ciel, qui fait cet appel, qui donne cette injonction, qui appelle, par lequel le Dieu lui-même appelle son peuple à sortir. Hein, donc, rappelez-vous, verset 1 à 3 ne donne aucun appel. Verset 4 est l'appel de Dieu à son peuple dans Babylone en ces derniers jours. Pas dans Babylone n'importe quel moment de l'histoire, mais dans Babylone en ces derniers jours. Juste au moment où où Dieu est sur le point de dire à son sujet que ses péchés sont montés jusqu'au ciel et que maintenant Dieu lui rendra au double. Vous comprenez? C'est-à-dire que sa chute, sa destruction est imminente et c'est précisément à ce moment-là que l'appel est donné. Et donc, cet appel concerne, comme je l'ai dit, la mère et les filles. C'est ce que nous avions lu. Hein. Les filles, ce sont des églises professant la foi protestante. Nous avons vu cela. Babylone concerne les organisations qui se sont corrompues, religieuses qui se sont corrompues. Cet appel ne fait pas, contient, mais n'est pas principalement adressé à l'Église catholique romaine, plutôt il est adressé à ses filles, les organisations religieuses de foi protestante qui, au début, avaient bien commencé, mais qui ensuite et aujourd'hui, suivent l'exemple de leur mère. Vous comprenez? Car nous lisions, je le cite, « Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. » Encore une fois, il était écrit plus loin, « Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. » Ok? Et donc, l'Église catholique romaine et les églises protestantes sont donc les corps religieux concernés par l'appellation Babylone dans ces passages-là, et surtout dans ce passage-là, donné à la fois dans Apocalypse chapitre 14, 8 et Apocalypse chapitre 18, versets 2 à 4. Et maintenant, frères et sœurs, bon, nous avons jeté ces bases pour nous rappeler et pour identifier, hein, c'est ça le but que nous avions donné, c'est que nous voulions identifier Babylone, nous voulions savoir qui est inclus dans Babylone. La réponse c'est que ce message adressé au peuple de Dieu dans Babylone comprend à la fois la mère et ses filles. Et maintenant la question qui se pose est celle-ci. L'appel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 est-il un appel à sortir de l'église adventiste du septième jour moderne ou bien un appel à sortir du mouvement de réforme? Et là, vous voulez être attentif à la réponse, elle va peut-être vous surprendre. Mais nous voulons, je vais la donner ici, et ensuite nous allons explorer à la fois la parole de Dieu et surtout l'esprit de prophétie pour obtenir une réponse solide, claire, qui ne laissera plus aucun doute et qui nous permettra d'être vraiment au clair vis-à-vis de ce sujet. Et donc, la réponse, c'est que nous répondons que non. L'appel d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, n'est pas un appel à sortir de l'Église adventiste du septième jour moderne. L'appel d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, n'est pas un appel à sortir du mouvement de réforme ou bien encore de l'IMS. Et nous voulons maintenant explorer les raisons pour lesquelles cet appel ne s'adresse pas à ces organisations-là. Examinez avec moi, frères et sœurs, attentivement la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, l'Église adventiste n'est-elle pas Babylone? La première réponse, nous pourrions en donner plusieurs, mais la première réponse sur laquelle je voulais que nous nous concentrions, c'est celle-ci. Je vous la donne et ensuite nous allons l'explorer. C'est que il ne peut pas être dit de l'Église adventiste moderne, c'est-à-dire d'aujourd'hui, qu'elle, je cite, s'attache aux doctrines et aux traditions de la Babylone mère. Parce que nous avions lu, j'y reviens, nous avions lu précédemment que la Babylone est appelée, donc c'était dans Tragédie des siècles, page 413, paragraphe 1, où il est écrit que Babylone est appelée la mère des prostituées. Ses filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ses doctrines et à ses traditions et qui, comme elles, sacrifie la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Donc, ces filles représentent les églises qui s'attachent aux doctrines de l'Église catholique romaine et à ses traditions. Gardez cela à l'esprit, frères et sœurs. Examinons maintenant la citation suivante qui se trouve dans la Tragédie des siècles à la page 597 et au paragraphe 3. Cette citation va être directement liée à la suivante, donc je veux que vous la preniez en note et ensuite que nous passions directement à la prochaine. Tragédie des siècles, 597, paragraphe 3, il est écrit. Nous voulons définir, qu'est-ce que cela veut dire de s'attacher aux doctrines et aux traditions de la Babylone mère. Qu'est-ce qui va distinguer une église comme une fille de la Babylone mère? Quelles sont les doctrines qui vont l'attacher à cette Babylone et la rendre et créer une parenté directe à l'église mère? Je lis ici. La théorie de l'immortalité de l'âme est l'une des fausses doctrines que Rome a empruntées au paganisme pour l'incorporer à la foi chrétienne. Luther mettait le dogme de l'immortalité de l'âme au nombre des fables monstrueuses qui constituent la boue des décrétales romaines. Nous en avons une ici. Quelle est une des doctrines principales de la Babylone mère? La théorie de l'immortalité de l'âme. C'est l'une des fausses doctrines que Rome a empruntées au paganisme. Et maintenant, une autre citation qui se trouve dans la Tragédie des siècles, à la page 637, paragraphe 1. Notez bien. Et maintenant, nous allons avoir une autre de ces doctrines principales. Écoutez, deux grandes erreurs, deux points. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Regardez ici, frères et sœurs, regardez quelles sont les choses qui rendent les églises et qui feront des églises protestantes, principalement aux États-Unis, mais ensuite à travers le monde, des partenaires du mouvement vers la marque de la bête. Ce sont ces deux grandes erreurs. Et donc, c'est bel et bien ces deux grandes erreurs qui créent un lien entre une église avec l'église mère et qui fait de cette église-là, de cette église protestante, une fille de l'église catholique romaine. Qu'est-ce que c'est? L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Ce sont les moyens, ce sont les deux grandes erreurs à travers lesquelles Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Vous voyez? Comment? Parce que l'église catholique romaine, la mère, à travers ses filles, créera le même esprit de persécution qui existait dans l'ancien monde, mais maintenant dans le nouveau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu appelle son peuple à sortir de ses églises, à sortir de Babylone, à sortir de ses sources de persécution. Et pour bien d'autres raisons encore, bien entendu. Mais vous voyez ici le lien étroit. Et nous allons continuer, ce n'est pas la fin. Parce qu'il y avait écrit, les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main, à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, comment? À travers la théorie de l'immortalité de l'âme, puis à tendre également à la main à la puissance romaine, comment? À travers la théorie et la croyance en la sainteté du dimanche. Vous voyez? C'est lorsque les filles tendront la main à leur mère. Les églises protestantes des États-Unis établiront un lien étroit de parenté avec le Vatican. Vous voyez? Et donc les deux grandes erreurs qui distinguent Babylone, à la fois sa mère et ses filles, sont l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Ainsi, frères et sœurs, notez bien, ainsi, étant donné que l'Église adventiste moderne, ni d'ailleurs le mouvement de réforme, ne promeut pas et ne croit pas en ces doctrines, elle ne correspond pas et ces églises ne correspondent pas à la définition inspirée de Babylone. Je répète, l'église adventiste du septième jour moderne, je ne parle pas du passé, je parle d'une église adventiste septième jour moderne. D'ailleurs, c'est également bien, à plus forte raison, c'était vrai de l'église adventiste du temps de Sir White, mais nous cherchons à savoir ce qui est applicable pour l'Église adventiste aujourd'hui. Et le fait est que l'Église adventiste aujourd'hui, ainsi que le mouvement de réforme aujourd'hui, ne correspondent pas à la description inspirée de Babylone. Ainsi donc, l'appel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 ne s'adresse pas à ces églises. Mais alors, vous me direz, alors, si l'Église adventiste n'est pas une fille de la Babylone mère, qu'est-elle? Si l'Église adventiste n'est pas Babylone, qu'est-elle? Eh bien, nous avons vu qu'elle n'est pas une fille. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attache pas aux doctrines fondamentales de l'Église de Rome. L'Église adventiste moderne ne croit pas en l'immortalité de l'âme, elle ne croit pas non plus en la sainteté du dimanche. Certes, il y a des insinuations jésuites et romaines, mais, et nous allons voir cela, nous allons explorer cela, mais cela ne fait pas partie de ces croyances officielles. En aucun cas. En aucun cas. Certes, la compréhension doctrinale ou pratique de l'observation du sabbat est peu présente, mais l'Église adventiste moderne croit en la solennité du sabbat, du septième jour, et croit également, et ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Et donc, elle n'est pas une fille, mais qu'est-elle? Notez bien et écoutez bien cette citation ici de l'Esprit de prophétie, qui se trouve dans Conseil sur la sexualité et l'adultère, je crois. Excusez-moi, je ne me souviens plus exactement. C'est CSAD à la page 229 et au paragraphe 3. Conseil sur la sexualité et l'adultère, oui, quelque chose d'autre. Remarquez ici, frères et sœurs. Cette citation fut écrite par la sœur White sous l'esprit d'inspiration en 1886, où elle disait « Au vu de toutes les choses qui avaient déjà lieu au sein de l'Église adventiste et qui se profilaient au sein de cette Église à cette époque, voilà ce qu'elle disait. Nous courons le danger de devenir une sœur de la Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Et ne serons-nous pas coupables si nous ne prenons aucune mesure décisive pour remédier au mal existant? Ne serons-nous pas coupables si nous ne prenons aucune mesure décisive pour remédier au mal existant? Et juste pour une illustration ici, nous allons d'ailleurs y revenir à cette citation. Voilà un exemple de ce que cela voulait dire et comment cela se manifestait, ce danger qu'encourait l'Église adventiste en 1886 de, je cite, « devenir une sœur de la Babylone déchue ». Une sœur, pas une fille, mais une sœur. Comment est-ce que ce danger était manifesté? Vous avez cette citation qui se trouve dans CSAD, encore une fois, même livre, à la page 231, paragraphe 1, où cela est illustré. C'était le cas d'un frère, mais qui illustrait un problème général qui aujourd'hui, je me permets de le dire, n'a pas juste été décuplé, mais est devenu la règle générale. Je lis. Mon frère, Sir White s'adresse à un frère dans l'église, elle lui écrit une lettre. Mon frère, mon cœur s'émeut à votre sujet pour l'amour de Christ. Comme d'autres pasteurs, vous avez tenté de concilier la lumière et les ténèbres. Christ est Bélial, la pureté et l'impureté, le bien et le mal. Si vous ne réalisez pas que vous vous trouvez au bord même du précipice, vous irez à la ruine morale. Il existe beaucoup d'autres cas semblables que je dois signaler. C'est le même livre, exactement le même livre, et c'est juste à deux pages. C'est juste deux pages plus tard que cette citation où elle disait « Nous courons le danger de devenir une sœur de la Babylone déchue ». D'ailleurs, c'est exactement la même lettre de 1886. Qu'est-ce que c'était ? Nous courons le danger de devenir une sœur de la Babylone déchue, de laisser, notez bien, comment est-ce que ça se manifeste, le danger de devenir une sœur de la Babylone mère. Nous courons le danger de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur, de toute oiseau impur et odieux. Comment est caractérisée une église qui est en passe de devenir non pas une fille, mais une sœur de la Babylone déchue? Par cette volonté, ou je devrais dire cette absence de volonté de faire quoi que ce soit pour arrêter le flot impétueux de la sensualité, de la convoitise, de l'impiété et de l'immoralité au sein de personnes qui font profession de foi dans le message du troisième ange. Absence de volonté de faire quoi que ce soit pour enrayer le flot de l'impiété. Nous courons le danger de devenir une sœur de la Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre. C'est l'esprit de laisser qui caractérise une église qui va devenir et qui aujourd'hui est devenue, sans l'ombre d'un doute, précisément ce que eux alors couraient le danger de devenir. Ce n'est plus un danger, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Vous êtes en face à face avec la réalité accomplie, le fait accompli de ce que la sœur White, la messagère du Seigneur, craignait. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas vu que c'est exactement ça qui s'est fait, je ne sais pas, il vous manque des yeux pour voir. Et donc, nous sommes face à la réalité du fait que aujourd'hui, parce que si tel était le danger encouru en 1886, ça fait 100 ans, plus 15, plus 25, depuis 140 ans, si tel était le danger encouru en 1886, il y a plus de 140 ans, ou il y a 140 ans, un peu moins, par l'Église adventiste, le danger ne s'est-il pas aujourd'hui transformé en une réalité, au vu de toutes les corruptions qui se font jour aujourd'hui au sein de l'Église adventiste, ainsi que d'ailleurs au sein du mouvement de réforme? L'Église adventiste moderne n'est donc pas une fille de Babylone, mais elle est une sœur. Une sœur de Babylone? Effectivement, frères et sœurs. Nous le disons non pas comme une suggestion, mais comme une certitude. Parce que c'était le danger qui était encouru lorsque l'Église adventiste du 7e jour en 1886, mes frères et sœurs, était un exemple de sainteté par rapport à vous et moi, frères et sœurs, vivons en ces jours-ci et par rapport à fortiori de l'Église adventiste moderne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est absolument pitoyable. C'est absolument pitoyable. Et donc, nous voulons nous poser la question maintenant. Comment cette sœur de Babylone nous est-elle décrite davantage dans la parole de Dieu? Tournez-vous avec moi vers le passage de Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24 et verset 37, nous trouvons la description à travers les paroles de Jésus précisément de cette sœur qui était en passe de devenir sœur du temps de Sœur White en 1886 et qui aujourd'hui est complètement inscrite sur le livre de famille, hein, si on veut parler de manière imagée. Parce que, rappelez-vous, dans le contexte de ces paroles de Sœur White vis-à-vis du danger que elle disait « nous courons » de devenir une sœur de la Babylone déchue, elle utilisait un langage qui était adressé principalement à des pasteurs, à des prédicateurs, à des enseignants. Elle disait, nous courons le danger de laisser nos églises se corrompre. Vous comprenez? Et ne serons-nous pas coupables si nous ne prenons aucune mesure décisive pour remédier au mal existant? Donc, langage était adressé principalement à des personnes qui étaient responsables de la santé morale et spirituelle des membres de l'Église. Nous, elle dit, nous. Vous avez vu? Laissez nos églises se corrompre. C'est-à-dire, qui peut empêcher les églises de corrompre? Les pasteurs, les enseignants, les présidents. Vous comprenez? Mais c'est précisément ce que eux ne faisaient pas. Et ce que, a fortiori aujourd'hui, eux, c'est-à-dire les pasteurs, présidents, prédicateurs, ne font pas au sein de l'Église adventiste comme du mouvement de réforme. Vous pouvez le vérifier. Vous ne l'avez pas vu de vos yeux? Ne nous mentons pas, frères et sœurs. Et donc, regardez avec moi. Regardez avec moi. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37, et ensuite nous allons passer au verset 42. Verset 37 nous permet de voir le contexte dont Jésus parle. Le verset 42 s'adresse directement et aborde, j'aurais dire directement, cette sœur et sa contrepartie. Remarquez. Matthieu chapitre 24, verset 37, nous lisons. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et je vais lire la suite, excusez-moi, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 42. Veillez donc, hein, parce que il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme que ce fut le cas au jour de Noé. Veillez donc, dit Jésus, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Verset 45, c'est là que ça devient vraiment applicable. Quel est donc, verset 45, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué ou au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais, verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se met à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Nous voyons ici, frères et sœurs, qu'au sujet de son retour à la terre, de son second avènement, Jésus parle d'une situation qui existerait parmi ceux qui attendent et qui proclament cet avènement. Et cet événement. Comment catégorise-t-il ce peuple qui attend et qui proclame cet avènement en deux? Il le distingue, il le sépare en deux catégories. Quelles sont ces catégories? La première, du verset 45 au verset 47, c'est le serviteur fidèle et prudent, ou comme c'est marqué en anglais, sage, le serviteur fidèle et sage. Hein? Ça vous renvoie à toutes ces choses vis-à-vis de la sagesse, les vierges sages, les sages de Daniel chapitre 12, etc. Ce serviteur fidèle et prudent ou sage qui donne à la maison de Dieu la nourriture au temps convenable. Donc, vous avez ici un serviteur et un groupe. Parce que ce serviteur, il n'est pas seul. Vous comprenez? C'est un groupe qui est présenté à travers juste l'illustration d'un serviteur. Mais ce serviteur, il représente un ensemble de serviteurs. Et le méchant serviteur, il représente également un ensemble de serviteurs. Ainsi qu'un ensemble de de membres. Vous voyez? Donc, c'est catégorisé en tout petit, avec ce serviteur fidèle et ce méchant serviteur, mais ça représente beaucoup plus. Et vous avez d'une part le serviteur fidèle qui donne à la maison de Dieu, donne au peuple de Dieu la nourriture spirituelle dont ils ont besoin, parce que c'est ça dont il est question. Hein, Jésus disait, je suis le pain de vie. Hein, comme c'est marqué d'ailleurs dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le serviteur fidèle leur fournit la parole de Dieu. Hein, c'est ça, cette nourriture dont ils ont besoin. Le pain spirituel, la nourriture autant marquée, c'est-à-dire la vérité présente, les choses dont ils ont besoin, quelque chose d'approprié, pas quelque chose de passé. Pas quelque chose de calculé, pas quelque chose sans vie. Mais d'un autre côté, vous avez le méchant et infidèle serviteur. Donc, s'il est méchant, il se montre également infidèle, qui, lui, est double de cœur. D'ailleurs, il se voit attribuer sa part avec les hypocrites. Ça montre à quelle catégorie il appartient vis-à-vis de ses qualités, ses vertus morales. Il est double de cœur, ce serviteur. Il dit une chose et il en pense une autre. Vous le voyez au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur, mon maître tarde à venir, il ne dit pas avec sa bouche. Donc il fait partie de ceux qui se réclament du nom de Dieu, qui se réclament de la fonction de serviteur de Dieu, de la fonction d'enfant de Dieu, de la fonction de représentant, d'ambassadeur de Christ, de la fonction d'adventiste. C'est ça vraiment de quoi il s'agit. C'est de cela dont il s'agit, mes frères et sœurs. Parce qu'il est question du retour de Jésus au verset 42, au verset 43, 44, au verset 37. Tout cela est vis-à-vis du retour invisible de Jésus. Pas de son retour en gloire, mais de son retour invisible, lorsque le temps de grâce pour enfin. Et les adventistes sont appelés, exhortés par Jésus à travers ces paroles de Matthieu 24 à veiller non simplement pour le retour glorieux, mais pour le retour ou la fin où Jésus met fin à son intercession dans le sanctuaire céleste. Tout cela est contenu dans les vérités de Daniel chapitre 11 verset 45 à Daniel chapitre 12. Et le serviteur fidèle doit connaître cela, mais également donner la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Mais le méchant serviteur ne fait pas cela. Il dit que Jésus revient, mais dans son cœur, il dit que il y a du temps. Et donc, parce qu'il dit cela dans son cœur et qu'il vit conformément à ce qu'il dit dans son cœur, eh bien, il se met à battre ses compagnons de service. C'est-à-dire, il s'oppose aux vrais serviteurs de Dieu. Il déforme leur caractère. Il les accuse. Hein? Il les accuse, il les critique, hein, il mine l'influence qu'ils ont sur le peuple de Dieu, etc. Et il fait également autre chose, c'est qu'il mange et boit avec les ivrognes. Il mange et boit avec les ivrognes. Mais alors, et c'est là que nous voulons nous réfléchir attentivement, frères et sœurs. Parce que nous sommes ici en train de faire le lien. Nous avons vu que le danger encouru en 1986, c'était que l'Église adventiste du septième jour devienne une sœur de la Babylone déchue, pas une fille parce qu'elle continuerait de ne pas croire dans l'immortalité de l'âme et de maintenir que le sabbat est le septième jour et que le sabbat est saint et que nous devrions l'observer, mais malgré tout, elle deviendrait une sœur de la Babylone déchue en ce que ses serviteurs, pasteurs, présidents, etc., diraient dans leur cœur, parce que ce serait maintenant, ça deviendrait l'esprit sous-jacent de la dénomination, ils diraient dans leur cœur, mon Seigneur, mon Maître tarde à venir, viens plus tard. Et donc, que ferait-il? Il se mettrait à manger et à boire avec les ivrognes. Mais alors, qui sont ces ivrognes avec qui ce méchant serviteur est représenté comme buvant? Et tout ce que je dis, ça s'applique également à d'autres églises faisant profession de foi dans le message adventiste. C'est le même principe. Notez bien, Ésaïe chapitre 25, verset 9. Si toutefois il rentre dans cette description-là. Ésaïe chapitre 25, verset 9. Et l'on dira en ce jour-là, voici, excusez-moi, non, c'est pas ça, Ésaïe chapitre 29, verset 9. Ésaïe chapitre 29, verset 9. Soyez étonnés et stupéfaits, soyez aveuglés et éblouis, ils sont ivres, mais non pas de vin, ils chancellent, mais non par la boisson forte. Donc, la Bible ici nous parle d'une ivresse qui n'est pas une ivresse de vin ou de boisson forte, mais qui est autre chose. Et vous le voyez ici dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 17, j'utilise le langage de la Bible ici pour vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, nous lisons « Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Le langage est assez imagé et nous présente une église qui s'est tant amalgamée au monde que ses doctrines représentent son esprit. Je répète, la parole de Dieu ici nous représente une église qui s'est tant unie, fusionnée au monde que ses doctrines respirent son esprit mondain. Et quelque église qui se met, n'importe quelle église qui se met ensuite à s'attacher d'une manière moindre, mais certaine malgré tout, à certaines de ces doctrines ou de ces idées, va inévitablement par elle assimiler un esprit de mondanité. Et quel est cet esprit de mondanité? C'est celui qui est exprimé dans le cœur du méchant serviteur par lequel il dit en son cœur, mon maître tarde à venir. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu un temps de méditation avec un catholique. Un catholique prétendument pratiquant. Et nous avions je voulais lui donner le bénéfice du doute, donc nous avons eu ce qu'ils appellent un temps de vespe. Je crois que c'est vespe, oui. C'est-à-dire que c'est une méditation du soir. C'est assez courant chez les catholiques. Et nous avions lu, il avait un papier qu'il lisait et qui était exactement au sujet de ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, et où il était écrit au verset 42. Jusqu'au verset, je crois que ça allait jusqu'au verset 51. Pour vous dire, c'était carrément au-delà, en dehors de ce monde, quoi. Et nous lisons cela, et je suis en train de lui prêcher et lui dire, voilà à quoi cela s'applique. Ça parle exactement du retour littéral et imminent de Jésus. Et il me disait, de la manière qui est typique des catholiques, c'est sans pour autant prendre offense, c'était de dire Ah oui, je crois que pour nous, nous croyons que c'est l'âge d'or et le Jésus, il viendra oh, après. Ça me paraissait tellement absurde son langage que j'ai pas réussi à mettre le doigt exactement sur ce qu'il pensait, mais il y avait cette pensée que Jésus viendrait à l'âge d'or et que cet âge était peut-être dans plusieurs milliers d'années ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est là que j'ai vraiment vu que l'esprit sous-jacent, interne, profond du catholicisme, c'est l'esprit de la mondanité, c'est l'esprit de vouloir à tout prix avoir le plus de choses possibles dans ce monde et dans cette vie. C'est ça l'esprit du catholicisme romain, mes frères et sœurs. Et ce méchant serviteur montre qu'il a bu à la source de la mer, bien qu'il n'accepte pas certaines autres doctrines parce qu'il est attaché à son identité adventiste, toutefois, il montre qu'il a bu à cette source par son esprit ou par lequel il montre par sa vie qu'il ne croit pas que Jésus vient bientôt. Il dit oui, Jésus vient bientôt, non, oui, là, 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 alléluia, Maranatha, etc. Mais dans son cœur, il a exactement le même esprit que le mondain et le catholique qui voit comme absolument insupportable l'idée qu'on coupe court à ses ambitions sur cette planète. C'est insupportable. Et donc, qu'est-ce que c'est? Et donc, il se met à battre ses compagnons de service. Pourquoi? Parce que les compagnons de service, les bons, hein, il ne va pas battre les autres méchants serviteurs. Non, il n'a aucune. Il est en harmonie avec eux. Mais ceux avec qui il n'est pas en harmonie, ce sont les serviteurs qui sont véritablement en train de se préparer et de chercher à préparer le peuple de Dieu pour le retour imminent de Jésus comme un voleur, annoncé au verset 42 et 44. Et le méchant serviteur, il ne peut pas supporter, ça lui passe en travers de la gorge, et donc il se met à critiquer, accuser, condamner, diffamer le vrai serviteur. Et c'est à cela que vous pouvez discerner. Et c'est précisément cela qui est devenu comme une entité générale, l'Église adventiste du septième jour. C'est une industrie de fabrication de méchants serviteurs. Et le mouvement de réforme est une industrie secondaire de fabrication de mauvais et méchants serviteurs. Et donc, nous voyons que ce méchant serviteur, quoiqu'il n'accepte pas les doctrines distinctives de Babylone, la théorie de l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, nous voyons qu'il boit quand même de son vin, du vin de Babylone, en recevant certains de ses enseignements et en s'identifiant à l'esprit de profonde mondanité qui a toujours caractérisé l'Église catholique romaine, et ce, depuis ses origines. Et vous voyez davantage dans Ésaïe chapitre 19, verset 4. Ésaïe chapitre 19, verset 14, pardon. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige et ils égarent l'Égypte dans toutes ses entreprises comme un homme ivre qui chancelle en vomissant. Qu'est-ce que c'est? Un esprit de vertige, ou comme c'est marqué dans la Bible Martin, un esprit de renversement. Et c'est directement lié à ce passage de Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12, où ceux qui sont séduits par l'impie, l'homme de péché, se verront envoyer un esprit efficace d'égarement. Et quel est cet efficace? Cet esprit efficace, c'est l'esprit de mondanité, de sensualité, de convoitise dans lequel le diable cherche à envelopper, même si c'était possible, les fidèles en ces derniers jours. Et il le fait premièrement à travers le méchant serviteur. Cet esprit est l'esprit d'égarement qui est propre à l'influence du mystère de l'iniquité. Et maintenant, pour conclure notre méditation, parce que le but de cette méditation, c'était donc de voir, nous voulions voir comprendre la sœur de la Babylone déchue, pourquoi l'Église adventiste n'est pas Babylone, tout en voyant son lien et en quoi elle est attachée à Babylone. Et nous voulons continuer dans Conseil sur la sexualité et l'adultère à la page 231, par quoi nous allons bientôt conclure. Au paragraphe premier, où il est écrit, c'est ce que je vous avais lu précédemment, à savoir, mon frère, mon cœur s'émeut à votre sujet pour l'amour de Christ. Comme d'autres pasteurs, vous avez tenté de concilier la lumière et les ténèbres. Christ est Bélial, la pureté et l'impureté, le bien et le mal. Si vous ne réalisez pas que vous vous trouvez au bord même du précipice, vous irez à la ruine morale. Il existe beaucoup d'autres cas semblables que je dois signaler. Et donc, on voit cet esprit du méchant serviteur qui essaie de concilier les deux et au sujet duquel Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a mis en garde pour nous. Jésus nous a mis en garde vis-à-vis de l'esprit qui serait notre danger d'assimiler en ces derniers jours. Et donc, cela commence à ouvrir notre esprit et nos pensées au deuxième appel que nous allons pouvoir regarder dans quelques instants, mais que je veux introduire par la citation suivante, également dans CSAD, à la page 233 et au paragraphe 3 et 4, où il est écrit « Satan dirige particulièrement ses efforts sur ceux qui ont reçu une grande lumière. Il vise à les rendre mondains et sensuels. Certains prédicateurs ont un cœur souillé par des pensées impures et des désirs non sanctifiés. » Vous voyez pourquoi Sir White disait « Nous courons le risque de devenir une sœur de la Babylone déchue. » Pourquoi ? Parce que nos pasteurs, prédicateurs, anciens, etc., etc., boivent à l'esprit de Babylone, boivent à l'esprit de Rome. Ils ne sont pas une fille. L'Église adventiste n'est pas une fille de Babylone. Elle n'est pas comprise dans l'appel. Mais un autre appel est adressé. Nous allons le lire. C'est celui qui se trouve, je vais le lire maintenant tout de suite d'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, excusez-moi, jusqu'au verset 18. Hein? Donc vous me direz, oui mais non, l'Église adventiste c'est Babylone, pourquoi tu dis ça ? Non, ce n'est pas Babylone. L'Église adventiste n'est pas Babylone. Le mouvement de réforme n'est pas Babylone. Mais ce qui concerne ces églises est un autre message. Est un autre message. Vous le trouvez dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez du Seigneur et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hein, vous avez vu, juste dans la citation précédente, nous lisions que ce frère, comme notre pasteur, tentait de concilier la lumière et les ténèbres. Christ et Bélial, la pureté et l'impureté. Et le passage de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, dit « Non, ne conciliez pas les deux. » C'est-à-dire, fuyez cet esprit du méchant serviteur. Et donc, l'appel est un appel interne. Et ceci n'est que la première partie, frères et sœurs. L'appel est un appel interne à fuir l'esprit du méchant serviteur et par extension, à fuir l'influence de ceux qui pourraient nous tenter à être attirés par cet esprit. Sortez du milieu d'eux et vous séparez, ne touchez point à ce qui est impur. Mais si vous ne voulez pas toucher à ce qui est impur, mais que vous restez auprès de personnes qui elles-mêmes touchent sans cesse à ce qui est impur, sans cesse tentent de concilier la lumière et les ténèbres, la pureté et l'impureté, Christ et Bélial, qu'arrivera-t-il à votre spiritualité? Et plus encore, nous lisons ici dans le même livre, à la CSAD, page 234, paragraphes 2 et 3, par quoi je vais conclure. Je dis la vérité, frère Butler. Elle s'adresse à ce frère connu de l'Église adventiste, Butler. Je vous dis la vérité, frère Butler. Si beaucoup de ceux qui prétendent croire à la vérité et qui la prêchent ne purifient pas le temple de leur âme, les jugements de Dieu, longtemps différés, surviendront. On n'a pas agi à l'égard de ces péchés avilissants avec fermeté et décision. Si l'âme n'est pas purifiée de cette corruption par le sang de Christ, il se produira dans nos rangs des apostasies alarmantes. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que le réel problème qui produisit les apostasies de 1914, etc. C'était quoi? C'était que ceux qui croyaient à la vérité et qui prêchaient la vérité avaient le temple de leur âme souillé. Souillé. Et c'est ces temples souillés qui n'avaient pas été purifiés de leur corruption par le sang de Christ qui furent à l'origine des apostasies alarmantes qui virent le jour à la Première Guerre mondiale et par la suite au sein de l'Église adventiste. Donc, oui, c'est vrai que c'était leur rejet du message de 1888, mais leur rejet du message de 1888, c'est parce que le temple de leur âme n'était pas purifié des souillures du péché et de pensées impures et malsaines. Vous comprenez? Et ensuite, ça continue ainsi. Je m'interroge, comment se peut-il que des hommes qui exposent aux autres les Écritures, des hommes dotés de grandes capacités, qui vivent dans le temps du jugement, aux frontières de l'éternité, livrent leurs pensées et leur corps à des pratiques impures? Les paroles de l'apôtre sont à souligner ici de point. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs, sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous avons parcouru cette première partie de manière à voir et à distinguer ce premier appel solennel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 de l'Église adventiste. Et dans notre deuxième partie, nous chercherons à comprendre plus précisément quel est l'appel qui concerne à la fois les adventistes et les réformateurs. Nous pencherons sur la question du mauvais serviteur et quel est l'appel que Dieu adresse à son peuple en ces derniers jours et ces différentes ramifications par lesquelles nous pouvons voir qu'est-ce qui s'applique à qui et que nous puissions ainsi, comme je l'avais dit au tout départ, corriger certains amalgames et clarifier certains points et jeter la lumière donc sur le lien étroit qui existe entre ces deux appels, quoi qu'ils soient distincts. Voilà, frères et sœurs, c'est ma prière. Puisse le Seigneur vraiment commencer de parler à nos cœurs, principalement à travers cette injonction, cette exhortation de l'apôtre Jacques, où il dit « Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Nous allons voir la semaine prochaine, Dieu aidant et par la grâce de Dieu, l'élargissement de cet appel à nous qui sommes doubles de cœur à purifier nos cœurs et en quoi cet appel s'applique d'abord à nous et par extension à nos affiliations religieuses. C'est ce que j'ai à cœur de nous présenter par la grâce de Dieu. Et en attendant, je vous souhaite un bon sabbat ou une bonne fin de sabbat pour vous selon votre fuseau horaire. Puisse Dieu véritablement nous encourager, nous illuminer et nous aider à prendre au sérieux ce que nous avons contemplé ici et que nous continuerons, Dieu aidant, d'approfondir. Que Dieu vous bénisse et puisse le Seigneur vous accompagner. Au nom de Jésus. Amen.